France Culture.
Jean-Marie Lacafine, bonjour.
Bonjour.
On vous retrouve pour le deuxième épisode de ces entretiens à voix nue. Dans l'épisode précédent, c'est-à-dire le premier, vous nous avez parlé de la mort de votre sœur aînée, Annie, à l'âge de 20 ans, quand vous en aviez 14, en 1968, emportée par une vague à Biarritz. Vous nous avez parlé de votre enfance turbulente à Bordeaux, entourée de grand-mères aimantes, en particulier une, marraine, que vous aimiez beaucoup et qui faisait très bien la cuisine. Et puis, vous nous avez parlé de l'amour indestructible de vos parents. Et je pense que nous avons quand même là un certain nombre de pièces importantes de votre maison que nous allons retrouver tout au long de ces entretiens. Je voudrais, pour ce deuxième épisode, que vous nous parliez de comment vous êtes venu à la littérature. Vous en disiez déjà un mot hier, hein. Vous parliez des lectures très politiques dont on reparlera un peu plus tard, mais des lectures aussi très littéraires comme Les Misérables. Mais je voudrais que vous nous parliez de l'importance de la littérature ou même de la fonction, de la place de la littérature dans votre vie. Et puis qu'est-ce que c'est qu'écrire pour vous, puisque au fond vous êtes d'abord un écrivain. Alors vous nous disiez que vous lisiez beaucoup enfant. Est-ce qu'après la mort d'Annie, vous avez continué à lire ?
Ah oui, plus que jamais. Mais la lecture, c'est venu très très tôt, en réalité. Je racontais hier qu'avec mon frère Bernard, nous passions toutes nos vacances à la Réole, chez ma grand-mère Marie-Louise. Et elle, c'était l'époque où paraissaient les premiers livres de poche. Elle achetait compulsivement les livres de poche et elle les lisait. On n'en parlait jamais, mais ils étaient sur des étagères, enfin. Et donc, ça a été une nourriture absolument...
Ils étaient à disposition.
Oui, ils étaient à disposition. Mais ça, c'est, disons, quand j'avais une dizaine d'années. Auparavant, j'ai commencé par, je dirais, le premier grand choc esthétique, émotif, c'est Tintin. En réalité, je me souviens que quand nous étions à Bordeaux, rue des Étables, une amie de la famille, enfin une autre amie de la famille, qui était la grande amie de ma mère, qui s'appelait Jacqueline, elle était célibataire, donc elle venait assez souvent, et puis elle adorait s'occuper de nous qui étions enfants. Et elle me prenait sur ses genoux, et elle mettait son doigt sur les cases de la bande dessinée de Tintin. Je connaissais absolument toutes les répliques de tous les albums, parce que c'était un univers absolument fascinant. Et puis après, il y a eu le Club des Cinq, enfin comme tous les enfants, mais les livres étaient beaucoup moins à disposition que maintenant. C'était vraiment des trésors, les livres. C'est-à-dire que je regardais un livre avec gourmandise, avec envie, avec désir, et je n'avais pas les étagères couvertes de livres comme peuvent l'avoir certains enfants d'aujourd'hui. Et ça a été extrêmement important pour moi. Et dans cette sorte de solitude dans laquelle nous étions avec mon frère, solitude un peu ensauvagée, où nous passions nos journées totalement libres, d'une façon qui est absolument incompréhensible ou inadmissible ou inimaginable aujourd'hui. Du matin jusqu'au soir, nous pouvions errer, à condition de ne pas avoir de fréquentation avec d'autres enfants. Ça, c'était l'interdit. Mais sinon, nous pouvions aller à des kilomètres, faire absolument ce que nous voulions et lire ce que nous voulions. C'est-à-dire que la lecture était aussi un havre tout à fait appréciable.
Et c'est vers 12-13 ans, quand vous lisez Alexandre Dumas, que vous avez un choc, le choc de la puissance d'incarnation de la littérature, par une mort en plus, par la mort de Porthos.
Ça c'est vrai, mais il faut dire que là c'était un moment où nous habituions à côté d'une bibliothèque publique, enfin qui était la bibliothèque de la SNCF, qui était donc réservée...
Je rappelle que votre père était cheminot.
Voilà, mon père était cheminot. Et j'avais accès à cette bibliothèque, il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui la fréquentaient, sauf au rayon bande dessinée peut-être. Mais moi je venais là mais tout le temps, et les deux dames qui tenaient la bibliothèque, dont je me souviens mais parfaitement, c'était deux fées pour moi, elles étaient derrière leur bureau, et elles me laissaient prendre absolument tout ce que je voulais. C'est-à-dire que normalement on avait droit, je ne sais plus, à deux ou trois livres, mais moi j'emportais des piles entières, et je les dévorais. Et donc, je voyais un rayon Victor Hugo, un rayon Alexandre Dumas, un rayon Jules Verne, etc. C'était pour moi la caverne d'Ali Baba. Et j'entrais dans les livres avec une intensité, bon, c'est sans doute tout à fait banal, hein. Je pense que beaucoup d'enfants ont vécu et vivent encore ça, et j'espère le vivront encore longtemps. Mais ce sont des souvenirs, en tout cas pour moi, absolument marquant, inoubliable. Et cette mort de Porthos, par exemple, c'était vraiment un moment qui m'a fait prendre conscience de la puissance extraordinaire de la littérature. C'est tellement enviable, c'est tellement désirable d'être dans ce monde où on peut sauter sur un cheval, partir, traverser la France, sauver une dame en danger, etc. Et ripailler, et rire, et connaître des amitiés immortelles. Enfin, que je croyais immortelles pour ce qui est des amitiés, puisque Porthos est mort un jour. Là encore, c'est un souvenir, mais c'est un souvenir qui est très fort. Ça peut paraître choquant de dire que c'est aussi fort que les deuils que j'ai pu vivre par ailleurs, mais pour moi, c'est d'une intensité comparable. Et je crois que c'est ce que j'essaie de creuser aussi dans Une amie de la famille, dans La vie des morts et dans ce que je suis en train d'écrire. Parce que pour moi, il n'y a pas tellement de différence entre les vivants, les morts et les personnages de romans. Il y a quelque chose de tout à fait comparable. Et ce jour-là, j'étais rentré en courant du lycée pour lire mon livre. C'était le Vicomte de Bragelonne. Et le siège de La Rochelle, enfin tous ces épisodes guerriers qui étaient racontés par Dumas, je les vivais absolument intensément. Et à un moment, à Belle-Île, Athos, avec Aramis, s'enfuit devant les soldats du roi et il traverse des cavernes que j'ai repéré. Ensuite, j'y suis allé pour voir si ça existait bien.
Et ça existe oui, bien.
C'est pas tout à fait pareil. Enfin bon. Et donc, ils galopent, ils sont poursuivis. Et à un moment, Porthos, qui est un colosse, laisse passer Aramis pour aller vers l'autre issue de la caverne où attend une barque, la barque du salut. Mais malheureusement, Porthos va être pris dans un éboulement provoqué par une charge explosive qu'il a lui-même lancée. Si je me souviens bien, hein, je déforme un peu, peut-être.
Comme vous êtes l'athlète de l'amnésie, comme vous l'écrivez vous-même, en même temps, oui. C'est vrai qu'on peut se méfier. Ouais.
Donc, la caverne s'effondre, d'énormes blocs de rochers tombent sur Porthos, et là, moi, lecteur de 10 ans, 12 ans, je ne sais plus, je me dis, bon, c'est pas grave, il s'en est toujours sorti, il va s'en sortir comme les autres fois. Et là, non. Là, d'un seul coup, l'énorme bloc de granit qui est tombé sur lui l'écrase, l'étouffe. Son ami essaie de le sauver, n'y arrive pas. Et en effet, il meurt et il meurt pour de bon. Et c'est à ce moment-là que j'entends ma mère qui est dans la cuisine qui crie « à table ». Et là, d'un seul coup, je me rends compte que je vis dans deux mondes parallèles qui sont la vie. Les deux sont la vie. Et je me dis « je ne peux pas aller à table, je ne peux pas... » Mon ami Porthos vient de mourir, je ne peux pas gâcher sa mort avec quelque chose d'aussi trivial qu'un repas en famille. C'est un souvenir très, très fort pour moi. Très fort parce que j'ai compris à quel point la littérature pouvait créer en nous plus que des émotions, nous faire entrer dans un monde qui n'est pas un monde irréel, qui n'est pas un monde imaginaire, qui est le monde, qui est la vie. Et pour moi, Porthos, il est aussi vivant. Peut-être que c'est choquant de le dire, mais il est aussi vivant que ma sœur.
Vous diriez qu'il est aussi vivant que votre sœur ?
Oui, bien sûr, parce que je pense que nous vivons dans l'imaginaire. Je crois que c'est Salter qui dit à un moment, j'ai envoyé cette citation à un ami aujourd'hui, et cette citation c'est « Il arrive un moment où vous savez que tout n'est qu'un rêve, que seules les choses qu'a su préserver l'écriture ont des chances d'être vraies. » Et c'est tellement, tellement fort. Ça n'est pas une vue de l'esprit. C'est-à-dire que pour moi, ce que j'écris, ce que je lis, ça a autant de réalité que ce que je vis. Ça paraît sans doute étrange à concevoir pour des gens qui sont plus rationnels. Ma mère, par exemple, était totalement étrangère à ce type de vision de la vie. Pour elle, les histoires qu'on invente, ce n'est que des histoires qu'on invente, quoi. Mais pour moi, c'est bien autre chose. Les histoires qu'on invente, elles sont aussi vraies que le reste.
Et vous écrivez, alors Marie Lacaftine, à la fois la littérature, c'est la vie, ce que vous venez de décrire, et aussi, dans première ligne, l'écriture comme la vie commence avec la mort. J'aimerais bien que vous nous parliez de ces deux...
Oui, je voudrais pas avoir trop de références évangéliques, mais si le grain ne meurt, c'est vrai que quand je disais « je suis né à 15 ans », c'est ça. Il a fallu d'une certaine façon que je vive ce deuil, que je vive cette perte, que ce grain de blé meure pour que autre chose naisse. Et la mort, ça n'est jamais qu'une des formes de la vie. Nous vivons avec des morts en permanence. Moi, je vis avec des morts, comme vous, sans doute. Et pour moi, ils sont tout à fait présents. On parle des absents, mais les morts ne sont pas absents. Ils sont bien là.
Vous disiez qu'après la mort d'Annie, vous avez continué à lire, même peut-être plus que jamais, beaucoup de poésie. Beaucoup de poésie, et d'ailleurs, une amie de la famille, dont on parlait dans le premier épisode et qui relate la disparition d'Annie, une amie de la famille commence par un exergue de Guillaume Apollinaire, La maison des morts, tirée d'alcool. « Car y a-t-il rien qui vous élève comme d'avoir aimé un mort ou une morte ? On devient si pur qu'on en arrive dans les glaciers de la mémoire à se confondre avec le souvenir. On est fortifié pour la vie et l'on n'a plus besoin de personne. »
Ce poème, je l'ai appris par cœur quand j'avais 15 ans, enfin juste après la mort de ma sœur. Comme la chanson du mal-aimé, je pense que je dois énormément à Apollinaire et aux poètes. Mais Apollinaire particulièrement, j'aime énormément d'autres poètes, mais lui, il m'a soutenu. Je me suis récité des dizaines, des centaines de fois ces poèmes qui sont de très longs poèmes. Et je marchais dans les rues et je me les récitais intérieurement. Et ça m'a énormément soutenu. Et le pouvoir des mots est tel, c'est un pouvoir de consolation, certes, mais autre chose que de la consolation, c'est plus que de la consolation. C'est la clé d'accès à un monde où on peut être en amitié avec les choses, avec les êtres. C'est le pouvoir de la poésie. Elle est présente dans la littérature, mais chez des poètes comme Rimbaud, Apollinaire ou Michaud, des gens qui ont tellement compté pour moi à cette époque, c'est la clé d'accès à un monde, je dirais pas supérieur, mais un monde de liberté et d'une forme d'extase qui nous libère, fût-ce momentanément, de la douleur.
Et très tôt, vous avez voulu écrire à votre tour. Vous avez commencé à écrire.
Oui, j'ai écrit.
Jeune.
J'ai écrit jeune. J'écrivais des poèmes. J'écrivais des.
Des chansons.
Des chansons. J'ai écrit beaucoup de chansons à une époque. Et même je les chantais. Enfin, je faisais tourner dans les MJC, etc. J'adorais ça. J'aime la chanson. Je continue à aimer énormément la chanson, même si je n'en écris plus depuis très longtemps. Mais j'aime écouter les chansons. J'aime la voix. Je parlais hier des voix. Pour moi, la langue, la littérature, c'est avant tout de la musique. C'est pour ça que j'aime particulièrement Céline, par exemple, parce que Céline, pour moi, est un grand musicien.
Votre premier roman a paru en 1981, me semble-t-il, Jean-Marie Laclaftine. Il s'intitule « Les Emmurés ». Les Emmurés, c'est l'histoire d'une femme qui parle à son amant. Son amant est mort. Il est allongé sur un lit à côté d'elle. Et elle lui parle avec la certitude que les mots ont le pouvoir de le ranimer, vont avoir le pouvoir de le ranimer. Il me semble que dans ce premier roman, tout est déjà là. C'est-à-dire qu'on a une très grande histoire d'amour. On a l'amitié parce qu'il y a une Claire qui est là et qui est une très grande amie de ses deux amants. Et puis il y a la mort, bien entendu. Et il est question d'une vague. Il est question d'une vague qui est au bord d'emporter les amants, déjà. Je me demande si on n'est pas loin de Biarritz. Est-ce que vous vous souvenez de comment est né ce livre ?
C'est assez étrange parce que ces passages dans le premier roman, dans Les Emmurés, où il y a une histoire de vagues, de noyades, je les ai écrits absolument inconsciemment, sans conscience réelle de la référence à mon histoire personnelle, au fait que j'avais vu ma sœur, que j'avais été moi-même emporté avec elle par une vague et que je l'avais vue mourir d'une certaine façon. Et c'est très longtemps après que quelqu'un m'a dit « Mais tu as remarqué quand même que cet épisode-là, il est présent dans Les Emmurés de façon flagrante, mais aussi dans d'autres de tes romans. » Et c'est une façon de recycler peut-être ou de revisiter, de rechanter une histoire qui a eu une présence particulière.
Et donc vous vous souvenez du comment il est né celui-là ? Parce que ces images sont des images inconscientes, mais qu'est-ce qui a été le point de départ? Vous en souvenez ou pas?
Je me suis rendu compte après coup que je me suis installé loin de tout, dans une campagne, dans le Lot. Je suis parti avec ma compagne. Nous avons eu un premier enfant très jeune et nous sommes installés dans une maison totalement isolée. Et je me suis rendu compte que j'avais mis tout en place pour commencer à écrire. Et j'ai écrit ce livre en 9 mois, sans même penser que j'allais écrire un roman. Je savais pas si j'en étais capable. Je pensais même que c'était tout à fait hors de portée. Mais je me suis rendu compte en l'écrivant que j'étais vraiment en train d'écrire un roman. J'étais vraiment en train d'écrire mon premier roman et que pour l'écrire, j'avais dû tout lâcher. Par exemple, abandonner toute idée, si jamais ça m'avait beaucoup travaillé, d'avoir un emploi rémunéré et salarié, quoi.
Vous aviez fait des études de lettres?
Oui, j'ai
fait. Pas dans l'idée d'être enseignant?
Non.
Parce que vous aimiez ça, la littérature, déjà?
J'aimais la littérature et je dois beaucoup, d'ailleurs, à certains enseignants, notamment un qui s'appelait Jean-Claude Liébert, que j'avais déjà eu au lycée. Au lycée, il m'a fait connaître, justement, Apollinaire, Céline, et quelques autres, et je l'ai eu ensuite à l'université parce qu'il est devenu prof de fac. Et là, il m'a fait connaître le nouveau roman Beckett, surtout Beckett, parce que Beckett, ça a été une déflagration, quelque chose d'immense pour moi, de très marquant, de très nourrissant. Enfin, je pense que ce sont des rencontres qu'on fait au fur et à mesure de notre vie de lecteur qui fait qu'on devient écrivain.
Robert Pinget, Claude
Simon. Robert Pinget, peut-être plus que tout, mais qui pour moi est indissociable de Beckett. D'abord, ils étaient très très amis. Et Pinget, il y avait tout chez lui. Il y avait cette sorte de liberté modeste et d'humour. Il me faisait énormément rire. Beckett aussi, d'ailleurs. Beckett toujours. Beckett est pour moi vraiment un immense romancier, parce que bien sûr, c'est un dramaturge, mais aussi, il est peut-être plus connu pour ça, mais moi, je l'ai connu par ses romans, et ses romans sont restés gravés à jamais. Et souvent, je me relis des passages de Molloy, notamment l'épisode des cailloux, que je trouve mais tellement extraordinaire, où Molloy ramasse des cailloux, les suce, l'un après l'autre, les change de poche. Qu'est-ce que c'est beau.
Vous nous disiez, Jean-Marie Laclaftine, hier, que sans même vous en être rendu compte, mais peut-être avec un peu plus de conscience aujourd'hui, finalement, tous vos livres, ou quasiment tous vos livres, étaient portés par la même vague. Peut-être c'est la vague qui a emporté votre sœur. Si on en prend quelques-uns. Et j'ai su que ce trésor était pour moi, écrit 35 ans après Les Emmurés, le premier. Cette fois, c'est un homme qui s'adresse à la femme qu'il aime. Cette femme est dans le coma. Et il invente pour elle des histoires qui s'entrecroisent. Ce sont deux écrivains et ils entendent des histoires en s'inventant des histoires. Et là, il raconte des histoires qui s'entrecroisent dans l'espoir que ça la réveille. Si je prends le troisième roman, La Maison des Absences, en 1984, il est question d'une fratrie. Il y a deux frères, une sœur. La sœur s'appelle Anne. Souvent, les femmes dans vos livres sont jeunes. Elles portent pour nom Anna, Anne, ça revient souvent. On est entre la maison bordelaise des Chartrons et la maison de campagne des environs de la Réole. Donc là, on a vraiment quelque chose d'assez autobiographique. Maintenant, on le voit. Le quatrième roman, Donna Fugata, femme fugitive, femme fuyante. Vous avez traduit en italien, vous le savez mieux que moi.
Oui, femme en fuite, disons. Mais c'est Donna Fugata, c'est le nom de la propriété du Guépard, dans le Guépard.
Autour d'un écrivain vieillissant, qui est entouré d'une gouvernante particulièrement attentionnée et d'une fille, Laura, qui elle-même est enfermée dans son mutisme et qui dit « Je n'avais pas choisi de me taire, si j'ouvrais la bouche, je me vidais ». Voilà, donc il y a beaucoup d'histoires, effectivement, qui sont autour d'amour tragique ou d'amour impossible ou d'amants séparés par la mort. Est-ce qu'avec le recul des choses, comme vous l'avez fait dans La vie des morts, qui est le prolongement d'une amie de la famille, et qui parle de la vie des morts en vous, de la vie de ces morts qui vous accompagnent, mais aussi du contexte d'écriture de vos romans, est-ce que maintenant vous diriez que vous savez un peu mieux à quel point toutes ces histoires sont des échos de la vie?
Oui, vous parliez de ce roman qui est en réalité mon dernier roman en date. Et j'ai su que ce trésor était pour moi. Parce que Une amie de la famille et La vie des morts sont vraiment des récits autobiographiques, totalement autobiographiques, même s'ils sont construits d'une façon littéraire, disons. Mais ce roman, je me suis rendu compte en l'écrivant, c'est donc l'histoire d'un homme qui est au chevet de sa femme, dans le coma, à l'hôpital, et qui lui raconte des histoires, et qui invente des histoires assez échevelées, qui sont liées les unes dans les autres, parce qu'il pense que tant qu'il lui raconte des histoires, elle ne mourra pas. Et en réalité, c'est l'histoire de mon premier roman, Les Emmurés. C'est une femme qui est au chevet de l'homme qu'elle aime et qui par les mots, tente de le sauver. C'est Scheherazade, en réalité. Ça m'a ramené, mais je m'en suis rendu compte en écrivant Une amie de la famille, à une scène fondatrice, terrible. Quand ma sœur est morte, on l'a donc allongée sur un lit dans l'appartement de ma grand-mère à Bayonne. Et à un moment, tout le monde était terrassé. Ce sont des journées absolument épouvantables, indicibles. Et mes parents erraient dans l'appartement, mais complètement fous. Et moi, j'étais avec mon petit frère Dominique, que j'avais sur les genoux. Et à un moment, dans l'axe du couloir, je vois Gilles. Je vois Gilles, qui était donc le petit ami de ma sœur, et qui était à genoux, à côté d'elle, allongée, morte. Il lui parlait.
Cette scène, à chaque fois que vous en parlez, vous l'écrivez, hein, que vous avez du mal. C'est celle-là que vous avez du mal à dire sans être happé oui. par l'émotion.
Oui, c'est drôle parce que je l'ai raconté des dizaines de fois. Quand j'ai publié le livre, j'allais de librairie en librairie pour en parler. Et je ne peux pas. Parce que c'est fondateur, c'est la littérature. C'est ça. Le pouvoir, enfin le but impossible, le fou de la littérature, c'est de réveiller les morts. Et en fait, je n'ai fait que ça dans mes livres. Et j'ai su que ce trésor était pour moi. Évidemment, ça prend une forme beaucoup plus joyeuse. Enfin, joyeuse parce que la littérature, inventer des histoires, c'est aussi un plaisir. C'est un bonheur, et c'est aussi un bonheur de lire les histoires. Mais dans le fond, c'est ça, c'est cette espèce de combat intime, profond, sans issue, on le sait, sans issue, et qui permet aux vivants de parler avec les morts.
Vous dites, Jean-Marie Laclafine, au fond, vous n'avez fait que ça. C'est pas complètement vrai, on le verra dans les émissions suivantes, mais il y a aussi d'abord, il y a des nouvelles que vous avez écrites, et les nouvelles ne portent pas que sur ces histoires-là. Et puis, il y a des romans qui sont plus légers, plus caustiques, plus ironiques. Je pense à Première ligne, je pense à Nous voilà, je pense à Demain la veille, on en parlera dans les émissions qui viennent. Mais vous aimez bien aussi ce qui est incisif. Les formes courtes.
Oui. Curieusement, les nouvelles, ça m'a toujours paru beaucoup plus difficile à écrire que les romans. Non pas que le roman soit facile à écrire, mais il faut se plonger dedans et c'est une aventure.
Il faut être concret.
Alors que la nouvelle, c'est plus technique, disons. Il faut maîtriser son sujet. On peut rester un peu en dehors du sujet et puis s'amuser. Créer un mouvement, une chute. J'ai mis longtemps à pouvoir écrire des nouvelles. J'y arrivais pas. Mais j'aime beaucoup ça. Raconter une histoire sous une forme ramassée et incisive, parce que il s'est passé quelque chose après Donna Fugata, quand j'ai changé de collection, en fait. Je suis passé de la collection Le Chemin dans la collection Blanche, ce qui est une trajectoire naturelle. Puisque Le Chemin, c'était un peu une collection de laboratoires où ont été publiés Le Clésio, Guyotat. Je me compare pas à eux, hein, mais Et après, je suis passé dans la Blanche et j'ai eu envie de donner libre cours à une forme de mon tempérament, à un aspect de mon tempérament qui n'apparaissait pas vraiment dans mes premiers livres, qui est, l'ironie, l'humour, le côté très caustique, le côté Attila, puisque quand j'étais petit, voilà, j'étais Attila.
On l'oublie pas.
Et il y a un petit côté Attila que j'avais envie de laisser paraître. Et la nouvelle, ça permet quand même plus facilement de laisser apparaître ça.
Et par ailleurs, vous disiez aussi, comme si vous mettiez un peu à part les deux livres qui forment peut-être un diptyque, à la fois Une amie de la famille et La vie des morts, son prolongement, comme s'ils étaient un peu, comme s'ils étaient ou roman autobiographique, mais pas complètement. Vous avez quitté la fiction pour aller vers la non-fiction. Et depuis, vous n'avez pas écrit ou pas eu envie de revenir à la fiction. Est-ce que il faut maintenant trouver un chemin entre les deux?
Oui, mais c'est très difficile parce que je n'ai pas envie de continuer à raconter ma vie qui n'a pas d'intérêt en soi. D'ailleurs, les deux livres autobiographiques n'étaient pas destinés à raconter ma vie, mais à parler à tout le monde de quelque chose de très essentiel, c'est-à-dire les rapports entre la vie et la mort, et d'en parler de façon joyeuse et vivante et tonique. Mais après ça, je n'arrive plus à revenir à la fiction. Inventer des histoires, c'est un mouvement qui me paraît compliqué, mais bon, je cherche.
Vous n'avez pas trouvé encore ?
Non, je cherche un moyen, un chemin à la lisière. C'est pas simple.
Bon, je ne sais pas si, en tout cas, comme votre narrateur-éditeur Cyril Cordouan l'écrit dans Première ligne. Première ligne, c'est votre livre qui était encore une fiction et qui a eu le Goncourt des lycéens en 1999. Si donc, comme il l'écrit, l'écriture mène au Val-de-Grâce, mais en tout cas, chez vous, elle vous a mené chez Gallimard. Donc d'abord dans la collection Le Chemin, puis vous avez rejoint La Blanche, comme on le dit. Vous travaillez aussi depuis 35 ans, on va le dire, comme éditeur chez Gallimard. Donc vous êtes à la fois auteur et éditeur. Et le métier d'éditeur, c'est celui qu'on abordera demain.
D'accord.
Dans l'épisode suivant, l'épisode 3, Le goût des gens. À demain et merci Jean-Marie Laclaftine.
Merci à vous.